Bonjour à tous. J'aimerais reprendre un texte qui était mon propos déjà il y a 15 jours et puis que j'aimerais continuer à développer avec vous. On était parti dans l'avant-dernier verset de la fin du livre de l'Apocalypse. Donc j'aimerais reprendre avec vous Apocalypse chapitre 22. Et le verset 20. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Tout en temps normal. Le dimanche matin, on partage le pain et le vin. Alors, on espère que ça va revenir bientôt, et ce repas est aussi toujours un repas de commémoration. 15 jours, on avait lu deux textes où Jésus disait « Je ne le boirai plus désormais jusqu'à ce que je le boive ou que je le prenne avec vous dans le royaume de Dieu. » Le Seigneur, je disais, c'est lire l'Écriture, s'approprier l'Écriture, c'est pouvoir la lire depuis le début jusqu'à la fin. Et là, on est tout à la fin de l'Écriture. Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Je disais que de prononcer ces paroles, c'est un engagement, c'est un appel, c'est un engagement qui a des conséquences. Le retour de Jésus, il est venu une première fois, d'une manière un petit peu cachée. Aujourd'hui encore, tous les êtres humains sur la face de la terre ne le voient pas, ne croient pas en lui. Je ne sais pas si on est une minorité, une majorité. On dit aujourd'hui à peu près, chrétiens tout confondus, 2 milliards, 2 milliards et demi. 1 milliard et demi de musulmans. Et toutes les autres religions. Certains disent, voilà, il y a une église qui se crée toutes les 2 minutes, toutes les heures, 2-3 églises tous les jours. Enfin, on dit, voilà. Parfois, on a l'impression que tout est exponentiel, et puis en même temps, l'état du monde est, voilà, nous laisse parfois un goût amer. Ce texte dit « Oui, je viens bientôt ». Je viens bientôt, ça pourrait être loin. Et puis souvent Jean-Marc dit « Voilà, parfois ça nous engage peut-être pas. » On dit « Voilà, j'ai tellement de choses encore à faire que je viens bientôt. » Enfin, c'est c'est loin. Si on pouvait, dans ce texte, dire oui, je viens bientôt. Amen. Seigneur Jésus, viens maintenant. Je viens bientôt. Parfois, peut-être, ça nous engage un petit peu moins. Ça peut être très loin. Puis on se dit, voilà, toutes les générations se sont succédées. Et puis, le Seigneur n'est toujours pas venu. Il y a un petit peu plus de 50 ans, dans le milieu des assemblées de Dieu où ma mère allait dans les années 60, ma mère a été marquée, puis moi aussi, par une prédication sur le retour de Jésus. Je ne sais pas quel âge j'avais, peut-être à peu près 12 ans, 14 ans, je ne sais pas, cette prédication m'avait marqué. Et la nuit, je comme une vision, tout en n'étant pas directement croyant, mais en tous les cas, j'ai vu vraiment tous les êtres humains sur la terre qui levaient les mains et qui attendaient quelque chose. Ma mère, à l'époque, avait, je pense, un peu plus d'une soixantaine d'années. Elle a été pendant 8 ans dans une église où elle n'avait le droit d'aller que le mercredi soir. Elle n'était pas baptisée d'eau, elle n'avait pas le droit d'aller au culte le dimanche matin. Et puis au bout de 8 ans, elle a entendu ce message sur le retour de Jésus. Puis là, le Seigneur a réussi à percer toute la couche qu'il y avait entre lui et ma mère. Et puis il disait, mais si je revenais là, maintenant, pas viens bientôt, c'est Jésus là, maintenant. Il se passerait quoi? Tu serais où? Puis là, elle a dit, oui, mais finalement, j'entends l'évangile de manière vivante là depuis des années. Et je suis où? Et je crois que c'est une des premières fois où vraiment elle a pu ouvrir son cœur et dire, oui, viens Seigneur Jésus, maintenant. Elle a pu prendre son baptême d'eau. Elle a été baptisée, je crois que c'est à Pont-l'Abbé, avec un frère gitan, le frère Loulou. Moi, j'allais à toutes les réunions jusqu'à, je ne sais pas, entre 8 ans et 14 ans. J'étais dans toutes ces réunions sans que ça me touche. Mais une nuit, quand j'avais 14 ans, c'est une des premières fois où je crois que le Seigneur a marqué quelque chose dans ma vie. Je ne sais pas si on est naïf quand on est jeune. Bon, je toujours un petit peu écouté comme ça, fleur bleue. Je me disais, mais ce serait tellement extraordinaire s'il pouvait y avoir de l'amour et de la compassion entre tous les êtres humains. Si je pouvais aller dans le monde entier, puis rencontrer des hommes, des femmes, des enfants, puis pouvoir leur serrer la main et dire, mais il y a une relation, il y a quelque chose. C'est tellement compliqué, la vie dans le monde. Alors ce matin, c'est Jésus, vient bientôt. Jésus vient maintenant. Et il m'a fallu quelques années pour pouvoir dire viens Seigneur Jésus maintenant. Bien des années après c'est tous ces temps où j'ai fréquenté une église assemblée de Dieu, j'ai vu des miracles, parler en langue, enfin voilà, tout ce qui est la vie charismatique, mais sans que ça me touche. Je crois que quand j'avais 20 ans, fréquentant tous les milieux universitaires sur Valenciennes, Lille, et puis à lire voilà, tout plein de livres aujourd'hui qui n'ont ni queue ni tête, ça m'arrivait sur le campus de Lille de faire une émission de radio et de démontrer en quoi Dieu n'existait pas. Et puis 2 ans après, j'ai été cueilli, mais je me dis, mais à l'époque, franchement, ça allait où? Qui a besoin de parmi nous de dire ce matin, viens Seigneur Jésus, maintenant. Amen. Viens Seigneur Jésus, maintenant. Amen, c'est en vérité, c'est vrai, c'est sûr, c'est solide, c'est un appui. J'aimerais prendre un autre texte de l'Apocalypse qui est un petit peu avant. Apocalypse au chapitre 21, on va lire les premiers versets, les 8 premiers versets. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Le premier ciel, la première terre avait disparu, la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, parée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toute chose nouvelle. » Et il dit écrit, car ses paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Il y a un huitième verset, bon, qui est un petit peu plus difficile à lire. Je pourrais le lire chez vous si vous voulez. Dieu fait toutes choses nouvelles. Quand on dit oui, viens bientôt, Seigneur Jésus, c'est qu'on attend, on appelle cette deuxième venue du Christ où il va rétablir toutes choses. Rétablir la création, rétablir Israël. Je disais il y a 15 jours, la fin de certains cycles et la fin d'un énorme cycle qui a démarré il y a des siècles avec ce temps des nations. Il y aura un coup de projecteur sur Israël, sur Jérusalem, et puis on entrera dans quelque chose de nouveau. Parfois on pourrait souhaiter, Seigneur vient et fait plein de choses nouvelles, bientôt, quand il reviendra. Et quand on lit l'Écriture, il y a aussi une autre manière de se l'approprier, de dire « Faites toute chose nouvelle dans ma vie, maintenant. » Quarante-six ans que je marche avec le Seigneur. Souvent, on parle des choses nouvelles comme étant notre temps de conversion, de repentance, de retour à Dieu. J'essaye le plus régulièrement possible de dire, Seigneur, je continue de faire des choses nouvelles dans ma vie, maintenant, aujourd'hui. Il m'arrive parfois, voilà, de... comme tout le monde, hein, je ne suis pas dérapé, mais enfin de me sentir pas très bien avec ma manière d'être, ma manière de dire, ma manière de vivre. Et puis, ce matin encore, j'ai besoin que le Seigneur continue de faire des choses nouvelles dans ma vie. On a chacun une image, une vision, les uns des autres. Et puis souvent, voilà, ceux qui sont devant sur l'estrade, on pense que... il est pasteur, il est ancien, il est prophète, il a passé sûrement des gens parfaits. En réalité, on avait une rencontre par Zoom hier avec une grande partie des responsables de notre église pour tout un processus de renouveau. Ils appellent ça de revitalisation. Le Seigneur fait des choses nouvelles aussi dans l'église, dans l'union des églises apostoliques de France, on était 64. Et puis, j'ai vu que Francine avait réagi à la fin. Il y a toujours, on présente toujours l'église avec ceux qui sont dans le ministère, et puis le mot laïc. Mais où est-ce que le mot laïc apparaît dans l'écriture? Il n'y a pas cette distinction, peut-être parfois cette distance faussée entre... ceux qui seraient les parfaits, qui sont apôtres, prophètes, docteurs, enseignants, évangélistes, pasteurs, anciens, diacres. Ce n'est pas un piédestal, ce n'est pas un statut qui est qui donne plus de droits. Et... alors après, je ne suis pas très champion moi, pour réagir sur... par Zoom, poser les questions. Donc, je suis content que Francine pose la question. Quand est-ce qu'on arrête cette distance entre ceux qui sont dans le ministère et puis les laïcs? C'est qui les laïcs? Écrit. Voici, je fais toute chose nouvelle. Ces paroles sont certaines et véritables. Un jour... bientôt, beaucoup de choses vont être changées. On espère, je disais, voilà, la création souffre les douleurs de l'enfantement. Hier, on fêtait les 5 ans de, soi-disant, une autre manière de traiter la Terre. Je fais toutes choses nouvelles, je commence des choses nouvelles. Le Seigneur peut le faire encore aujourd'hui, encore maintenant dans nos vies. On avait vu qu'il y avait plusieurs cycles dans l'Écriture. On avait lu les textes, fin de Genèse, des Juges, des Chroniques, de Malachie, avec à chaque fois les étapes, tout ce temps de silence de Dieu après le livre de Malachie. On avait lu dans Matthieu la généalogie de Jésus, 3 fois 14 générations, jusqu'au fils de David, Jésus-Christ. Toutes ces générations qui se succèdent depuis David, depuis Abraham. Entre Abraham et Jésus, à peu près 2000 ans. Depuis Jésus jusqu'à aujourd'hui, à peu près 2000 ans. Donc on est un petit peu dans la même conformité. Israël, Jérusalem, des générations compliquées. Peu de temps après la première venue de Jésus, en l'an 70, tout a été détruit. 132, 133 après Jésus, à peu près la même chose. Une révolte, et puis les Romains, ce coup-ci, ont rasé complètement Jérusalem, ont construit une autre ville avec un autre nom. Plusieurs exils. Le temps des croisades. 8 croisades qui n'ont pas amené le royaume de Dieu. Reconquête de Jérusalem, le temple, presque 1 siècle, 8 croisades pour essayer d'imposer le royaume de Dieu. Ce n'est ni par force ni par puissance, je crois que c'est écrit quelque part dans l'Écriture, dans Zacharie. C'est par mon esprit. Plénitude du royaume viendra quand Jésus va faire ce deuxième retour. Jusqu'en 1948, difficulté de compréhension de tous ces textes, des prophètes, Apocalypse. Un texte d'Ésaïe qui est extraordinaire, qui dit en un jour, une nation reviendrait-elle à la vie? Ça a pris quelques jours. Entre Theodor Herzl, tout ce mouvement sioniste, fin du 19e, 20e. Je vous rappelle le 20e, hein, 2 guerres mondiales, 2 bombes atomiques. Et ensuite, on a failli avoir 1, 2, 3 dérapages atomiques. Fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, 6 millions de personnes. Le XXe siècle n'a pas été un siècle de tout repos. Je dis ça, alors nous, moi je suis la génération, je suis né en 52, 2020, la génération qui a connu 70 ans de paix. Aujourd'hui, en France, on peut vivre notre foi voilà, de manière tranquille. Là où le christianisme a commencé en Orient, l'Église d'Orient, en quelques années, il en reste pratiquement plus rien. Le christianisme, dans plein de pays, c'est des chrétiens persécutés. Certaines églises, certains chrétiens croient encore qu'on peut, voilà, d'une manière politique, d'une manière qu'on peut toujours installer le royaume de Dieu sur la terre. Comment est notre attente ce matin? Je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Ça, c'est pour la terre habitée, mais dans ma vie, est-ce que ce matin, j'ai envie de dire, viens, Seigneur Jésus, maintenant. Je crois que c'est Jean-Marc hein, qui dit souvent, voilà, tout le monde est prêt à prier pour le réveil. Et c'est vrai que bon, il y a toujours cette petite image, hein, le réveil, c'est je fais un rond, je me mets dedans, et puis Seigneur, commence déjà, touche déjà ma vie. Succession de générations, on est en 2020, je viens bientôt. Promesse accomplie, non accomplie. Allez, on prend un texte dans Genèse 3,15, juste relire quelques textes qui annoncent quelque chose. Qui fait partie de cette attente, c'est dans les textes. Depuis plusieurs millénaires, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre son lignage, entre ton lignage et son lignage. Celui-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. On dit que c'est une des premières promesses. Voici, je fais toute chose nouvelle. L'ennemi a souvent essayé de différentes manières, de différentes façons de faire capoter ce texte. Juste à la naissance de Jésus, le roi Hérode a fait tuer tous les enfants mâles jusqu'à 2 ans en disant « Si jamais ce nouveau roi, ces nouvelles choses qu'on l'annonce, si celui-là veut prendre ma place, je vais essayer de le tuer avant la fin. » Ensuite, quand il a vu Jésus sur la croix, il s'est dit « Waouh, c'est super, l'affaire est pliée, c'est moi qui ai gagné. » Et 3 jours après, Christ est ressuscité. Il a dit qu'il a exposé devant tous là, ce que l'ennemi voulait faire. Deutéronome chapitre 18, texte peut-être qu'on lit moins souvent. Deutéronome 18, les versets 18 à 19. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Si quelqu'un n'écoute pas ces paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Je suis venu avec la parole de Dieu, il est la parole de Dieu. Demande des comptes aux êtres humains sur toutes ces paroles de Dieu. Jusqu'à ce jour, c'est le temps de l'amour, le temps du pardon, le temps de la grâce, le temps de la paix, de la joie où on a un choix. On a le choix d'écouter Fils du Dieu vivant. En tant qu'apôtre, prophète, voilà, il a tous les titres, toutes les identités profondes sont à lui. Un jour viendra, lors de sa deuxième venue, où tout le monde devra répondre. J'essaie de te parler. Tu en as pensé quoi? Tu en as fait quoi? Tu l'as reçu comment? Et là, le choix sera plus resserré. Pour les rois, les princes, les nations du monde, pour tout le monde devra faire acte de reconnaissance. Tout le monde devra plier le genou. Nous avons l'opportunité, tant que nous sommes vivants, de pouvoir reconnaître le Christ Jésus comme étant le Fils de Dieu. Dieu Sauveur, et de pouvoir plier le genou devant lui. Un texte dans le livre du prophète Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Ces deux, trois dernières semaines, enfin depuis un peu plus d'un mois et demi, je suis en train de reprendre tous les textes sur le retour du Seigneur. Là, je viens de finir tous les petits prophètes, et puis entre autres Malachie. Malachie chapitre 3 et le verset 1. « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Il est venu une première fois en tant que messager de Dieu avec les paroles de Dieu. Et depuis 2000 ans, l'Église, à travers de la prédication, à travers de tous les moyens, de l'écrit, de la parole, aujourd'hui la radio, la télé, la parole de Dieu, ça va jusqu'aux extrémités du monde. Le messager va jusqu'aux extrémités du monde. Et quand cette plénitude d'êtres humains, de païens, de non-juifs sera entrée dans le royaume, alors viendra la fin. Soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Il est entré dans le temple 2000 ans. Il y a une fois où il s'est fâché. Chose qui l'a profondément heurté dans le vécu de l'époque, dans la manière de vendre des animaux pour les sacrifices, pour faire des transactions financières. Il a dit qu'il a renversé les tables, et puis il a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait de ma maison ? Soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? On a beaucoup de textes comme ça qui nous présentent en perspective, un petit peu comme des montagnes différentes. Première et cette deuxième venue. La deuxième venue va être beaucoup moins ouverte que l'a été la première. J'aimerais lire un texte avec vous dans 2 Corinthiens. Au chapitre 3. Les versets 14 à 18. Oh, je vais lire à partir du verset 12. « Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage. Que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Ils sont devenus durs d'entendement. Jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Il y a un voile sur beaucoup de choses. Sur les plans de Dieu par rapport à Israël, à Jérusalem. Un voile sur les nations, un voile sur Christ, un voile sur l'Écriture, sur l'Ancien Testament. Toutes ces choses-là ne s'éclairent, ne se dévoilent, ne se déchirent qu'en Jésus-Christ. Un jour dans ma vie, j'ai été en pensionnat catholique. On nous faisait apprendre des textes des évangiles par cœur. J'étais quelques années avec ma maman dans une église ADD et puis... J'étais dans le monde, étudiais des choses occultes, voilà, etc., etc. Enfin, en me disant, mais finalement, est-ce que Dieu existe? Je crois que la question est toujours restée. Puis en même temps, à 20 ans, je me disais, mais non, sans doute pas. Et puis, on est tellement plus intelligent. Si on va étudier toutes ces choses aujourd'hui, hein, ça s'appelle le complotisme. Je me dis, rien de nouveau. Il y a 50 ans, toute la génération hippie, les choses étaient... On fouillait, on remuait les mêmes choses nauséabondes et qui ne faisaient pas avancer plus. Et un jour, décembre 73, tout d'un coup, cette parole de Dieu vivante, j'existe, c'est moi, je suis là. Le coup de tonnerre. Comment est-ce que Dieu peut continuer à déchirer le voile dans nos vies? Même avec les années de conversion. Pouvoir toujours réentendre cette parole, voici. Je continue de faire des choses nouvelles. Je fais des choses nouvelles. Moi, je suis émerveillé. J'ai hâte que Jésus revienne, cette deuxième venue, et que tout ce qu'on travaille sur le monde, eh bien, tout ce, voilà, de voir comment il va s'y prendre pour renouveler la terre, pour mettre toutes les nations sous ses pieds, dire à tout le monde, c'est... Maintenant, vous obéissez, et c'est moi qui prends la main, c'est moi qui décide, c'est moi qui... C'est pour bientôt, ça peut être aussi maintenant dans ma propre vie. Je pourrais rencontrer Christ le jour, hein, il parlait de l'enlèvement de l'Église un jour, quand cette totalité... qui a goûté à la vérité et qui a reconnu Christ, quand cette plénitude d'être humain sera remplie, Jésus revient. Wow. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne dans nos cœurs? Alors peut-être que ce que l'on vit au niveau sanitaire peut aider, d'avoir envie que Jésus vienne et puis... remettre de l'ordre dans ce monde. Certaines églises, certains mouvements religieux, chrétiens, non chrétiens, pensent que c'est eux qui peuvent réinstaller le royaume de Dieu sur terre. Il y a des royaumes là qui me font peur. Le royaume de Dieu est différent, le royaume de Christ est différent. Pour le moment, c'est un royaume qui est caché, qui est au milieu de l'Église, au milieu de tous ceux qui reconnaissent le Christ de Jésus. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté, pouvoir accéder à cette pleine vérité du salut. Paul, déjà, disait à une église en Grèce, voilà, je vous ai annoncé plénitude, la totalité du salut de Dieu. Je vous le laisse en dépôt. Vous en êtes aussi responsable. Avoir soif de totalité de vérité, plénitude de vérité. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Souvent, on pense qu'un temps de conversion, ça y est, j'ai été transformé. J'ai mon CAP, j'ai mon BEP, j'ai mon bac, j'ai ma licence, j'ai mon doctorat en sciences chrétiennes. Non. Nous sommes transformés en la même image. C'est un processus. On appelle ça la sanctification. Ça, tous les jours de notre vie. Ce matin encore, voilà, pour différentes raisons, j'ai réalisé que j'ai encore besoin d'être touché, transformé, vivifié, renouvelé. Et que déjà le premier, voilà, je dois dire, Seigneur, viens, continue de faire des choses nouvelles. Je vous laisse avec cette parole, hein, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté, puis on continuera un petit peu l'inventaire de ce je viens bientôt, on veut prier ensemble. Voilà, Seigneur Jésus, merci parce que tu invites ton corps, ton Église, chaque fois qu'elle se rassemble, à faire cette prière que, voilà, on est ensemble jusqu'à ce que tu viennes. Et c'est vrai qu'ensemble, on peut dire Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens. Mais viens déjà ce matin aussi dans chacune de nos vies. Viens nous aider à continuer à nous ouvrir à toi. Viens continuer à nous convertir, pouvoir continuer de vivre de cette vérité, de cette lumière de ta présence. Merci pour ce temps de grâce, de pardon, d'amour, où tu viens nous rencontrer avec toute la tendresse, toute la délicatesse. Chacun selon ses besoins, ses aptitudes, le moment de sa vie où il est face à toi. Seigneur, merci de nous accompagner dans tous ces pas de foi. Certains sont plus difficiles que d'autres. Viens, Seigneur Jésus, maintenant, dans chacune de nos vies. Amen.